Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 27 janvier, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, c'est une belle journée qui est en préparation. Actuellement, c'est nuageux. On a autour de moins 11 degrés, généralement ensoleillé, c'est un peu ce qui est prévu pour la journée. Température autour de moins 7 degrés, ça se couvre en soirée. Et là, les températures seront à la hausse pour atteindre moins 3 durant la nuit. Demain, il y a du temps couvert, peut-être un peu de neige, pas vraiment d'accumulation, là, 1 cm, tôt le matin, puis peut-être au début de l'après-midi. Mais donc plus 3 degrés comme maximum, moins 7 durant la nuit. Et puis dimanche, jusqu'à maintenant, on prévoit entre 5 et 10 cm de neige. Température autour de moins 7 degrés. Puis on prend le moment pour saluer les équipes de déneigement qui sont au travail, public, privé, là, les opérations de chargement de la neige qui sont commencées. Beaucoup de choses ce matin. D'abord, la crise du logement. On en parle. Mais les chiffres rendus publics hier par la Société canadienne d'hypothèques et de logement confirment ce qui se voit, ce qui s'entend sur le terrain. Et Montréal, bien sûr, mais un peu partout au Québec, on voit la rareté, la pénurie de logements. Si vous prenez, par exemple, Montréal, le taux d'inoccupation est autour de 2%. Par exemple, à Québec, c'est 1,5%. À Gatineau, c'est à peu près impossible de trouver un logement, c'est moins de 1%. Et pour Montréal, le prix d'un logement deux chambres, c'est plus de 1 000 $. Vous allez me dire, moi je paye plus, je paye moins, c'est sûr, là. Mais statistiquement, ils ont fait le prix moyen et la conclusion, c'est que donc, depuis les dernières années, les logements se sont fait rares et la rareté veut dire une hausse des prix. Je voyais ce matin que, par exemple, il y a des villes qui ont eu des hausses de loyers sur une période d'un an de 9 à 10%. Je pourrais vous donner un paquet de chiffres, mais il manque de logements et les coûts reliés à la construction sont élevés, ce qui fait qu'on prévoit que le nombre de mises en chantier va diminuer. Les taux d'intérêt sont élevés, les coûts de construction, matériaux, main-d'œuvre, ça demeure élevé. Alors, on est pris un peu comme dans une espèce de cul-de-sac. Et il faut surtout pas être aveuglé par l'espèce de comptabilité créative de la Ville de Montréal qui nous fait croire qu'ils ont créé un paquet de logements, alors qu'ils ont confirmé des logements qui existaient, puis des projets qui ont même pas dépassé, disons, les étapes préliminaires. Alors, comment faire? Est-ce que ça prend des fonds publics davantage? Mais si on veut répondre à des besoins criants, puis pas des apparts à une chambre, puis des logements avec 2-3 chambres pour une famille, c'est comme une espèce de minimum. Puis à Montréal, il y en a pas, ou très peu, et ils coûtent évidemment très cher. Donc, chaque logement, dit l'association qui représente les propriétaires, ça coûte entre 400 et 450 000 à construire. Et c'est beaucoup trop cher. Alors, on aura l'occasion d'en débattre, évidemment, un peu ce matin. Il y a aussi le dossier du recyclage, de la gestion des ordures. On vous parlait hier de ce rapport de Recycle Québec là, qui était dans la presse. Il y a le ministre Benoît Charrette qui a réagi en disant que, évidemment, quand on produit plus de 700 kilos de déchets par année par citoyen, c'est quand même énorme. Et il veut ramener ça à 525 kilogrammes d'ici la fin de l'année. Est-ce que ça peut se faire? Ça me semble, disons, assez ambitieux comme projet. Et il y a toute la question, on le voit, de la gestion des matières résiduelles. On va parler avec les gens de Recycle Québec tantôt, mais ce qu'il faut retenir, je pense, d'abord, il y a des efforts qui se font. C'est pas parfait. On n'a pas, atteint des objectifs, il faut que ça se fasse. Et il y a, je pense, beaucoup de citoyens qui comprennent ça. Ça peut prendre du temps. C'est pas toujours non plus facile dans des quartiers à haute densité de population. Puis je parle avec des gens ici à la station qui disent c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Vous me direz, ouais, mais des villes comme Toronto, oui. Mais ça peut prendre un certain temps. Puis des fois, au lieu d'être un peu trop dogmatique, ce serait bien de pas prendre son temps pour prendre son temps, mais implanter les choses correctement. Alors, mais c'est clair qu'il y a tout le secteur commercial qui est pas vraiment balisé et qui génère. Puis ça amène deux réflexions rapides, là. La première, notre surconsommation de produits, et la deuxième, le suremballage. Et on n'a pas besoin de vous donner 60 000 exemples, là. On le sait tous que actuellement, il y a du délire dans l'emballage. Ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de ça. Autant de carton, de papier, de styromousse. Et surtout que l'achat en ligne fait en sorte qu'on utilise évidemment ces éléments d'emballage. Je veux parler d'éducation ce matin, parce que Bernard Drainville sera avec nous, le ministre de l'Éducation, qui a présenté hier ses priorités. On va se le dire franchement, c'est un plan qui demeure théorique, dans la mesure où voici mes constats et mes intentions. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de cible, vraiment. Par exemple, quand il a dit qu'il veut, pour combler l'absence de profs dans les écoles, créer probablement un brevet rapide d'enseignement, ce qui ferait que des gens pourraient obtenir ça quand même avec 30 crédits. Puis je vous le dis, là, ça crée beaucoup de remous parce que des gens qui étudient depuis longtemps, est-ce que ce sera la même reconnaissance, le même salaire? Mais le premier constat qu'on peut faire ce matin quand on parle d'éducation, ce qui, malgré les budgets qui existent, nous n'avons pas au Québec une lecture complète des indicateurs en éducation. Et Gilles de Royer nous l'a même dit hier. Avant de décider ce qu'on fait, est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe? Quelle est la réalité scolaire? Le nombre de profs qui manquent? Le nombre d'enfants, d'élèves en difficulté? Bernard a un peu glissé hier en disant « on a créé tant de postes de spécialistes ». Non, on a affiché des postes de spécialistes, ils n'ont pas été comblés. Et quand on fait le parallèle avec Christian Dubé en santé qui dit « je me crée un tableau, des indicateurs, je veux savoir ce qui se passe dans mon réseau ». Là, je veux pas m'acharner sur Jean-François Robert, là, je comprends qu'il y a eu la pandémie, mais c'est assez hallucinant de constater qu'on a un ministère de l'Éducation qui ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les écoles du Québec. Et surtout, quel est le plan de match pour corriger le tir? On a appris un paquet d'éléments cette semaine. L'échec massif en français, examen de cinquième secondaire. Des élèves qui redoublent mais qui font pas leur sixième année. Des élèves qui ont 55% mais qu'on fait passer pareil. Des profs, des experts qui viennent nous dire que beaucoup d'étudiants font le parcours scolaire, arrivent au terme et ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture, bref, ne maîtrisent pas le français. Je sais que M. Robert va annoncer un plan aujourd'hui qui est très bien là pour protéger le français, puis investir, puis se doter d'outils pour protéger la langue et la culture francophone. Et puis on parle beaucoup encore cette semaine de permettre... Donner des outils aux immigrants d'apprendre le français, faudrait peut-être aussi, de notre côté, l'apprendre. Et disons que... Alors, trouvez ça intéressant, on va parler avec Bernard tantôt, mais disons que on se demande exactement où aller. Puis tu sais, de rénover les écoles, de rendre ça, disons, plus agréable, autant pour les profs que pour les élèves, on comprend qu'on a du retard. Et là, l'autre débat, je vous le dis, va porter sur... Parce que Bernard a annoncé hier qu'il souhaitait doter les écoles de projets particuliers, d'investir davantage. Et là, vous avez tous ceux qui parlent des écoles à trois vitesses. L'école privée, l'école publique avec ses projets qui fait une sélection, et l'école publique tout court. Et hier, là, j'ai reçu pas mal de courriels de parents qui disent « il faut une mixité, ça prend des classes avec des élèves qui performent, donc qui sont moins bons ». Et c'est pas vrai qu'il faut faire de la ségrégation puis commencer à avoir des programmes. Puis là, c'est un débat parce que beaucoup vont vous dire aussi que ces programmes particuliers sont très stimulants, permettent souvent à des élèves d'avoir la motivation pour faire le parcours scolaire. Fait que c'est pas là, c'est le méchant programme particulier qui fait qu'on vole des élèves, mais comment tout ça va s'articuler? Disons qu'on est dans le flou encore pour l'instant. En parlant des interdictions de stationner, je vous disais il y a deux secondes que le ministère de l'Éducation n'a pas un portrait de ce qui se passe dans les écoles complet là, du Québec. La ville de Montréal ne sait pas avec certitude quelles sont les règles pour se stationner à Montréal sur la rue. Le Journal de Montréal nous dit ce matin que la ville entreprend de recenser des centaines de milliers de panneaux d'interdiction qui bordent les trottoirs. Vous le savez comme moi, dans certains cas, c'est contradictoire, c'est confus, c'est flou, on comprend pas. Eh bien, rassurez-vous, la ville aussi ne comprend pas ce qui se passe dans les rues de Montréal et vont faire une vaste opération. Je lis ce matin le responsable qui dit que Montréal est reconnu comme une ville où les rues présentent une forte densité et complexité de panneaux qui segmentent souvent des rues zonées réduites et réservées à des cas d'usage particuliers. C'est certain qu'on risque de faire apparaître des situations de contradiction, mais ça va nous aider à faire des recommandations à la ville. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, l'histoire qu'on a racontée ce matin, qui était aussi dans le Journal de Montréal, les gens de la place de Boucherville. Puis, sérieusement, là, ça a été la semaine des amalgames à l'arrondissement, le maire, M. Lessard-Blais. Là, on discute de gens qui ont un espace, une allée, et qui ont converti, ou qui ont acheté, puis c'était comme ça, là, converti donc le garage en pièces. Là, t'as pas le droit de faire ça depuis 1974. On comprend. Illégal. Mais on tolère ça, là, jusqu'à ce qu'une plainte arrive. Mais les gens stationnent leur voiture là. Les voitures électriques, je suppose que t'as une borne. Des gens, dans certains cas, ont installé une borne. Tu dis, as-tu moyen de trouver un compromis? Évidemment, les intégristes dans Hochelaga pensent que non. Ou en tout cas, ils nous font croire que c'est bien compliqué, bien difficile. Le bureau de Mme Plante a communiqué avec nous hier pour nous dire que il fallait quand même trouver une solution. Surtout en tenant compte, par exemple, des véhicules électriques. Puis là, il ne s'agit pas de permettre ça partout. Puis on n'est pas contre les règlements d'urbanisme, contrairement à certains délirants là, qui pensent que dès qu'il y a un règlement, que on peut-tu être souple, on peut-tu regarder la réalité qui peut avoir évolué? Et je pense que dans ce cas-là, là, quand on est rendu à faire des amalgames avec les inondations puis la mort d'une petite fille dans un quartier, je trouve ça d'une démagogie assez indescriptible. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans cet arrondissement, j'ai reçu une lettre de l'ancien maire et signée par des anciens de l'arrondissement, Réal Ménard, qui nous parle des pratiques du maire, qui coupe les ailes à l'opposition, qui a de la misère, semble-t-il, à comprendre qu'il y a des gens qui ont été élus puis qui pensent pas la même chose que lui. Et donc de partager, par exemple, l'accès aux fonctionnaires pour qu'ils puissent faire leur job d'opposition dans l'arrondissement. C'est une lettre qui est datée déjà depuis quelques jours. Et puis en parlant de ça, de ces coins dangereux, là, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Méric Séguin qui partageait hier des images prises sur Delorimier à l'angle La Rivière. C'est à peu près, dit-il, à 300 mètres de l'endroit où la jeune fille a été happée. Il y a une interdiction de tourner à droite. Et ce qu'on voit, en soirée, là, peut-être à la fin de la journée, ça tourne sans arrêt. C'est marqué, là, interdit de tourner à droite. Fait partie des mesures qui ont été annoncées. Ils filment, tout ce que tu vois, ce sont des véhicules qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui sont pas supposés. C'est visible, le panneau est là, c'est clair. Pas s'il y avait quelqu'un qui attendait ces gens-là à l'autre bout. Ça reste à voir. Fonderie Horn, Radio-Canada nous dit ce matin que Québec va annoncer donc des mesures et pour s'assurer d'avoir un niveau d'arsenic tolérable. Et ça veut dire aussi probablement qu'il y a des maisons qui seront déplacées dans le secteur. J'ajoute également ce matin, Harold Lebel, c'est 8 mois de prison. Il dit qu'il a une réflexion à faire. C'est une sentence qui a été accordée hier et c'est le fruit d'une décision entre les procureurs. Et la victime a témoigné par lettre et elle explique encore évidemment comment c'est difficile pour elle, que ça a été tout au long, depuis le début, douloureux, puis on peut la comprendre, et de devoir venir raconter ce qu'elle a vécu. Puis je rappelle que Lebel était une espèce de mentor, une espèce de modèle pour elle, d'où la tristesse qui est sans doute amplifiée. Puis elle doit composer, évidemment, avec ça. Alors, 8 mois de prison, et il fera pas 8 mois, mais disons qu'il y a une certaine introspection à faire. Rapidement, je termine avec deux dossiers. D'abord, l'Ukraine. Jean-François Lépine sera avec nous tantôt, mais on peut déjà vous dire que le Canada va envoyer 4 chars Léopard. Monsieur Zelensky, le président de l'Ukraine, parle d'une coalition avec Allemands, Américains, Canadiens. 4, ça semble pas beaucoup. Ça semble aussi les seuls chars disponibles. C'est ce qu'on a sous la main pour l'Ukraine. En tout cas, c'est ce que la ministre a dit hier. Alors, on va regarder ça, évidemment, avec intérêt. Puis, il y a cette histoire absolument incroyable aux États-Unis. 5 policiers qui sont accusés de meurtre après l'arrestation brutale d'un Afro-Américain. Donc, vous avez la victime, qui est un jeune homme noir, Afro-Américain, et les 5 accusés de meurtre sont des policiers Afro-Américains noirs. Ils font partie d'un groupe. D'ailleurs, le 3/4 de la ville de Memphis, à peu près, un peu moins, le 60-quelques%, est composé d'Afro-Américains, et ces policiers faisaient partie d'une opération qui s'appelle Scorpion, pour lutter contre la criminalité dans certains secteurs de la ville qui sont, disons, plus chauds. L'homme, de ce qu'on comprend, a été intercepté, conduite erratique, se serait sauvé, rattrapé par les policiers, et aurait été tabassé. L'avocat de la famille a dit que c'était comme une piñata. C'est quand on frappe avec un bâton, là, bon. Les images seront rendues publiques aujourd'hui. Mais là, ils sont accusés de meurtre, puis il y a une série d'autres accusations. Ils ont évidemment été congédiés par la police de Memphis.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a présenté hier ses priorités. Il y en a 7. Il est avec nous ce matin. Bonjour Bernard.
Bonjour Paul.
Beaucoup de choses. Première question que j'ai envie de te poser ce matin. Cette priorité, c'est bien en termes de nom. Faut pas avoir une liste trop grande. Mais le premier constat qui m'a frappé hier, c'est que, à moins que tu me dises le contraire, le ministère de l'Éducation manque d'informations sur ce qui se passe dans le système scolaire au Québec. Il n'y a pas un tableau de bord très complet pour être en mesure de faire un diagnostic, puis après ça, tenter de régler les problèmes.
Exact.
Ça veut dire que Robert n'a pas fait une grosse job.
Il en a fait un bout. Il en a fait même un bon bout. C'est dire à quel point on partait de loin. Mais il reste encore un bon bout à faire, Paul. Ça ressemble beaucoup à ce que Christian est en train de faire à la santé. Mais Christian est plus avancé que nous à l'éducation.
OK, mais qu'est-ce qui te manque comme données? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, puis qu'est-ce qui doit être fait quand même assez rapidement?
Essentiellement, là, je vais te donner un exemple. Mettons, là, je veux savoir... écoute, là, j'ai tellement fait de demandes, là, justement, pour essayer de savoir. Là. Mettons, je veux avoir une information, là. Faut que j'envoie 72 demandes dans les 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Fait que là, ça s'en va dans les 72... Puis là, une fois arrivé dans les 72, ça s'en va dans les écoles. Puis là, les écoles rapportent l'information que j'ai demandé. Puis là, après ça, l'information retourne dans les centres de service. Puis là, des centres de service, ça remonte à moi. Fait que ça prend énormément de temps. Et souvent, l'information qu'on reçoit n'est pas comparable. Parce que la manière de colliger cette information-là est différente d'un centre de service scolaire à l'autre. Fait que on a un gros travail pour créer un système d'information, si tu veux dire, là, un système informatique avec des données qui sont les mêmes pour tout le monde, avec des banques de données dans lesquelles je peux aller chercher l'information rapidement en temps réel.
OK. Donne-moi des exemples d'informations dont tu as besoin là et qui sont colligées de la façon que tu viens de décrire.
Paul, je ne connais pas le nombre d'employés dans le réseau scolaire actuellement.
OK.
Mais je l'ai raconté, là. Ma première réunion avec mes sous-ministres, là. Toute première réunion avec mes sous-ministres, j'apprends, il y a une de mes sous-ministres qui me dit, Monsieur le ministre, on n'est pas capable de vous dire combien d'employés vous avez présentement dans le réseau scolaire. Puis là, quand j'ai entendu ça, j'ai cru mal entendre. Fait que je lui ai demandé de me répéter ça parce que ça me semblait tellement incroyable. Là. Puis elle m'a dit, on ne sait pas combien d'employés vous avez dans le réseau.
Est-ce que
ça pourrait être, oui, tu sais, l'état de vétusté des écoles. Mettons, je veux savoir l'état de vétusté des écoles. Où est-ce qu'on en est avec certains travaux dans les écoles? Toutes les informations sont compliquées à obtenir. Et moi, l'une des priorités que j'ai annoncées hier, c'est justement d'avancer les travaux qui sont en cours, puis d'arriver avec un tableau de bord. Moi, j'ai dit à mes hauts fonctionnaires, qui sont de très bonne volonté, je leur ai dit, produisez-moi un tableau de bord, même s'il est imparfait, incomplet, faut commencer quelque part. Je veux avoir un tableau de bord, mettons un certain nombre d'informations dans ce tableau de bord et enrichissons-le au fur et à mesure où l'implantation des systèmes informatiques se fait, mais il faut à un moment donné avoir quelque chose à montrer pour que le public sache où on en est avec des informations de base, là.
Je vais te donner un exemple ce matin de ce qui se passe dans le réseau. Ton collègue Roberge, il y a un an, annonce pour tenter de régler le problème là, de pénurie de main-d'œuvre, un programme pour amener le retour d'enseignement à la retraite. OK? Mm-hmm. Je lis dans le communiqué du gouvernement. Concrètement, un enseignant retraité pourra toucher près du double de la rémunération maximale habituelle qui est accordée pour la suppléance. Ça, c'est ce que Roberge dit, c'est le communiqué. Dans les faits, il y a des centres de services scolaires qui ont dit à des enseignants à la retraite qui voulaient revenir, qui se sont présentés, on n'a pas l'argent pour ça, retournez-vous-en chez vous. Fait que, tu comprends, tu sais pas combien t'as d'employés, tu sais pas combien il t'en manque, puis quand vous faites un programme pour essayer d'en ramener, il y a quelqu'un quelque part qui décide que ça marchera pas.
Ouais, ça, ce bout-là, honnêtement, je ne le savais pas, là. Puis je vais aller aux informations, Paul, parce que je suis d'accord avec toi, là. Si on annonce un programme, puis Dieu sait qu'on a besoin de ramener des enseignants retraités dans le système, puis qu'on leur donne des incitatifs financiers pour le faire, ben là, il faut que les incitatifs financiers soient versés. Mais je te gâche, Paul, là, puis j'ai l'air un peu ridicule quand je dis ça, là. J'en suis conscient. Mais je te gâche que je demanderai aujourd'hui, là, OK, on a ramené combien d'enseignants retraités? La réponse, ce sera, on va faire une collecte info. On va envoyer donc 72 courriels ou 72 demandes dans nos 72 centres de services scolaires et commissions scolaires. Et je vais avoir éventuellement une réponse la plus complète possible si tout le monde répond à ma demande d'information, mais je vais l'avoir, évidemment, ça va prendre un certain temps. C'est pas normal qu'on fonctionne comme ça. Okay. Ça peut pas continuer.
Je veux essayer de comprendre ta position sur, appelons ça, la voie rapide pour obtenir un brevet d'enseignement. Mm-hmm. Si j'ai bien compris, ce serait d'aller chercher quoi? 30 crédits, donc à peu près un an à temps plein pour un étudiant et étudiante?
Exact. Sauf que ce serait probablement à temps partiel, parce que c'est souvent ces personnes-là travaillent déjà. Soit elles sont déjà dans le réseau scolaire comme enseignantes non qualifiées, Fait qu'elles travaillent le jour. Dans certains cas, ils ont des enfants. Fait que le soir, ils sont occupés. Fait que c'est pas évident de faire ça. Mais je pense qu'un 30 crédits, moi, mon objectif, un 30 crédits, là, mettons, deux cours à la session d'automne, deux cours à la session du printemps, probablement deux cours l'été, puis deux cours à la session d'automne suivante, puis deux autres cours au printemps. Je pense que à l'intérieur de deux ans à temps partiel, là, on devrait y arriver.
OK. Puis est-ce que le fait d'obtenir, j'appelle ça le brevet rapide par rapport à l'autre brevet, le circuit traditionnel,
il y a une maîtrise qualifiante, oui.
Ouais. Est-ce qu'il y a une différence de salaire? Il y a une différence d'emploi? Y a-t-il une différence entre les deux?
Je suis pas rendu là encore.
Mais est-ce que je te pose la question parce que Magali, elle, est en train de terminer son bac de maîtrise. Puis elle dit, moi, je vais lâcher ça puis je vais aller faire la voie rapide parce que je vais avoir une job plus vite.
Je suis conscient de cette difficulté-là. Alors, il va falloir avoir une réponse à cette question-là. Pour le moment, je ne l'ai pas. Mais chose certaine, le système actuel à 60 crédits, la maîtrise qualifiante, dans bien des cas, ça fonctionne pas. C'est juste trop long puis trop lourd. Là. Ça prend... Écoute, Paul, là, c'est 4 ans, c'est 5 ans.
Je sais,
mais... Il y en a qui voient ça puis qui disent, ben garde, c'est pas, c'est bien de valeur, mais je vais pas m'embarquer là-dedans. Ou il y en a qui commencent, ils finissent pas. Ça fonctionne pour certains, mais il y en a pour beaucoup pour qui ça ne fonctionne pas.
Mais la question, c'est est-ce qu'on va avoir des profs qui vont enseigner dans une classe avec des conditions de travail ou des conditions salariales différentes selon le type de brevet qu'ils ont obtenu?
Je pense pas. En tout cas, là, je m'étire un peu, là, mais regarde, les enseignantes là qui ont un bac en éducation, ils ont fait 4 ans à l'université. Ce dont je parle ici, c'est de bachelier, de bachelière, quelqu'un qui a un bac en histoire, en français, en chimie, en géographie, en mathématiques, en anglais, qui a fait 3 ans. Et moi, je propose une année supplémentaire, 30 crédits, pour lui permettre d'avoir son brevet d'enseignant. Fait que c'est 4 ans aussi. C'est 4 ans de scolarité universitaire dans les deux cas.
OK. L'autre question. Les fameux projets particuliers. Là, il y a un débat, tu le sais, là, entre des gens qui disent, puisque tu as dit hier, là, il faut en faire parce que ça permet à des jeunes de se motiver, puis ça permet aux écoles d'avoir un peu de vocation. Mm-hmm. Puis il y a des gens qui disent, il y a 3 écoles au Québec. L'école publique, privée, pardon, l'école publique avec projet particulier, puis l'école qui reste pour ceux qui sont moins bons puis qui ont moins de défis. Et alors qu'on devrait avoir dans les écoles, disent ces gens-là, des mix de population, donc des élèves forts, moyens, plus faibles, qui pourraient comme ça se stimuler. Là, si je comprends bien, toi, tu dis non, il faut faire plus de projets particuliers.
Oui. Moi, là, quand je me suis promené dans les écoles, Paul, il y a des écoles où je suis allé où il y avait déjà des projets particuliers. Si on arrondit, là, c'est à peu près la moitié des écoles secondaires puis la moitié des élèves du secondaire public qui sont déjà en projet particulier. Le chiffre exact, c'est 44 % des élèves puis c'est 55 % des écoles secondaires publiques qui ont déjà au moins un projet particulier. Fait que, on peut dire à peu près la moitié du chemin de fait. Moi, ce que je souhaite, c'est que, à terme, toutes les écoles secondaires publiques du Québec aient au moins un projet particulier et je souhaite qu'on crée des projets particulier pour les élèves à besoins particuliers. On ne devrait pas les laisser de côté.
OK. Projet particulier ne veut pas dire pour toi une forme d'élite.
Non. Au contraire.
Mais normalement, un projet particulier, il faut que tu aies des résultats aussi. On te demande, si tu veux faire du sport-études, ben, il faut que tu t'engages à avoir une certaine performance scolaire.
Oui, mais ça, c'est différent. Les programmes sport-études, là, c'est des programmes réservés à l'élite. Ça, c'est des programmes accrédités par les fédérations sportives. Puis effectivement, dans ces cas-là, mettons tu vas faire ta scolarité le matin, puis l'après-midi, tu t'en vas à l'aréna jouer au hockey. Mettons, là, je résume un peu, là, mais grosso modo, c'est ça. Ça, c'est les sports réservés à l'élite. Moi, ce dont je parle, les programmes réservés à l'élite, ce dont je parle, moi, quand je parle de programmes ou de projets particuliers, je parle de concentration, de profil. Ça veut dire, Paul, que, mettons, 3 ou 4 fois par semaine, donc dans tu sais, t'as 3 ou 4 cours par semaine qui vont être réservés aux projets particuliers. Donc, tu vas devoir effectivement faire de la place dans la grille matière. Tu vas devoir décider, par exemple, d'enlever tel ou tel cours, puis de le remplacer par le projet particulier. Mais alors, moi, ce que je veux, c'est démocratiser les projets particuliers, mais c'est pour la masse. Ce que je souhaite, c'est que tous les élèves secondaires qui le veulent, parce qu'il y en a qui n'en voudront pas, mais tous les élèves secondaires qui en veulent devraient pouvoir s'inscrire dans un projet particulier.
OK, je vais y aller d'une série de questions rapides. Quand on apprend cette semaine que des élèves qui ont redoublé font pas leur sixième année, est-ce que tu vas corriger ça? Est-ce que c'est une pratique qui va se répéter dans les prochaines années?
Ben, il y a déjà dans la loi sur l'instruction publique, la loi sur l'instruction publique, Paul a dit, le cours du primaire, il faut que tu le fasses en 6 ans, mais il y a possibilité d'obtenir une dérogation pour pouvoir le faire en 7 ans. Donc, tu peux redoubler une fois. En gros, là, c'est ça. Et je comprends pas, moi, dans l'histoire qui a été rendue publique, on fait redoubler l'élève, donc il fait 2 fois sa 5e année, puis il passe la 5e année au secondaire. Mais là, je connais pas le cas précis de cet enfant-là.
Non, mais il y en a 1000,
mais il me semble, si tu fais redoubler quelqu'un, si tu lui fais faire 2 fois sa 5e année, il me semble que le choix logique, ça devrait d'y faire faire sa 6e année avant de l'envoyer au secondaire.
Mais est-ce que tu as le pouvoir de faire ça ou pas?
Ben, j'ai le pouvoir de dire au centre de service scolaire puis aux directions d'école, n'en faites pas un dogme. S'il faut que l'enfant redouble, parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de redoubler, ben faites-le redoubler. Faut se sortir là, Bernard, de cette espèce
ben,
de...
Ouais, mais moi, je veux juste comprendre.
C'est devenu un dogme, Paul. C'est devenu ce que je comprends, là. C'est juste, ça va faire 100 jours demain que je suis ministre, là. Mais ce que je comprends, c'est que c'est devenu... J'ose pas dire une religion, là, mais c'est devenu comme...
Ben, on les fait passer
à peu près impossible. Ben oui, mais c'est ça. C'est devenu à peu près impossible de faire redoubler. Mais là, je me dis, voyons, à un moment donné, regardez le bien-être de l'enfant. L'enfant, il est-tu prêt à monter ou il est pas prêt à monter? S'il est pas prêt à monter, ben oui, faites-le redoubler.
OK, l'autre question, je sais que le temps file, là, mais l'autre question bien importante. On a vu cette semaine le niveau d'échec. La pandémie, je veux bien, là, mais le niveau d'échec de l'examen de 5e secondaire en français. Tous les experts à qui on parle disent que les élèves, les étudiants, réussissent à parcourir, je dirais, leur cheminement dans le système en n'ayant pas les connaissances de français, de lecture, d'écriture, puis ils vont finir pareil avec un diplôme. Comment tu vas corriger ça?
Ben d'abord, je suis très inquiet de ça, là. Puis je suis très inquiet de voir la quantité de fautes que nos élèves font, en particulier en français écrit. Et ce que j'ai dit hier, c'est que ça commande des changements. Et je réfléchis à des changements. Paul, je suis pas en mesure de te les annoncer ce matin, mais c'est sûr qu'il va falloir changer des choses, là, dans la manière de soit d'enseigner le français, soit de corriger les fautes de français. Il faut agir là-dessus. Ça, c'est clair, clair, clair. Tu sais, par exemple, là, mettons que dans un cours de français, je m'attends à ce que tes fautes de français soient corrigées. Mettons que tu remets un travail, je m'attends à ce que dans le cours de français, tes fautes de français soient corrigées. Bon. Mais dans un cours d'histoire, dans un cours d'éthique et culture religieuse, dans une autre matière, est-ce que les fautes de français, Paul, sont corrigées? Je suis pas capable de répondre à cette question-là présentement. Mais je pense que les fautes de français devraient être corrigées dans toutes les matières. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, est-ce que je peux implanter ça? Est-ce qu'il y a des obstacles au niveau du régime pédagogique? Est-ce qu'il y a des... On est en train de regarder ça. Je suis encore en train, je te dirais, de mesurer les pouvoirs qui sont les miens pour être capable d'apporter des solutions sur des sujets comme ceux-là.
Mais encore faut-il savoir la réalité, ce que t'es pas en mesure de connaître.
Ouais, mais là-dessus, je suis capable de la connaître.
Okay.
Parce que là-dessus, ça relève du régime pédagogique, ça relève de la loi sur l'instruction publique. On est en train d'évaluer c'est quoi mes pouvoirs d'intervention sur des matières comme celle-là. Il y a d'autres sujets où c'est plus compliqué. Mais là-dessus, je pense que je suis capable d'avoir un bon portrait de la situation, en tout cas sur l'étendue de mes pouvoirs d'intervention, là. Puis après ça, on va trouver le bon chemin pour agir.
Merci d'avoir pris ce temps-là.
Merci, Paul.
À bientôt. Salut.
Salut.
Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation.
L'essentiel de Paul Arcand.
Donc, la police a ramassé 31 cyberpédophiles des opérations policières qui ont eu lieu à travers tout le Québec entre le 23 et le 26 janvier. Et avec nous, le lieutenant Marc-Antoine Vachon, qui est le responsable de l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile. Monsieur Vachon, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arquin.
Peut-être nous faire un portrait, là, plus de 30 cyberpédophiles, là, les opérations ont eu lieu où exactement?
En fait, les opérations sont déroulées partout au Québec, dans à peu près toutes les régions administratives depuis lundi dernier, depuis le 23. C'est ça, comme vous l'avez dit, 31 personnes qui ont été arrêtées pour des crimes sexuels commis envers les enfants.
C'est quoi le profil des gens qui ont été arrêtés? Ils ont quel âge?
Il n'y en a pas de profil. Le profil, c'est des gens de 37 à 79 ans qui ont été arrêtés. C'est des personnes, on a des camionneurs, des mécaniciens, des comptables, on a des un professeur, on a des retraités, des gens sans emploi. On a vraiment tout, là, des taxis, on a de tous les profils. C'est tous des hommes. Comme j'ai dit, 37 à 79 ans qui ont été arrêtés cette semaine.
Si vous aviez à illustrer un cas, je veux pas le nom, c'est pas ça qui m'intéresse, là, mais vous l'avez arrêté parce qu'il faisait quoi exactement, puis qu'est-ce que vous avez trouvé?
Bien, premièrement, juste pour expliquer comment on a initié ce projet-là, qui s'appelle le projet Recentré. C'est un projet qui a été chapeauté par l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile. Ce n'est pas un projet qui est fait uniquement par la Sûreté du Québec, c'est un projet qui est fait en partenariat avec les corps de police municipaux de Longueuil, Laval, Gatineau, Montréal et Québec. C'est plus de 275 policiers qui ont participé à cette opération-là. Donc, il y a aussi d'autres corps de police impliqués là-dedans. Tout ça origine d'une infiltration qui a été faite par nos experts de cybercriminalité sur des plateformes de discussion, des plateformes web ou des applications de téléphone sur lesquelles on connaissait déjà que le contenu des conversations était toujours relié aux abus sexuels envers des enfants. Donc, c'est une infiltration de ces plateformes-là qui a été principalement faite et qui a mené à ces arrestations-là.
Des plateformes au Québec ou ailleurs?
C'est des plateformes ailleurs. Là. C'est des plateformes qui sont internationales, si vous voulez, que tout le monde peut utiliser.
OK, puis quand on dit une plateforme, c'est une plateforme où on va chercher des images, des plateformes où on échange entre pédophiles, c'est quoi exactement?
C'est ça, c'est des plateformes où on discute, des plateformes de discussion, en fait, du clavardage.
Ils discutent de quoi?
Ben, c'est ça, ils discutent, je veux pas amener de quoi ils discutent, mais c'est des gens que les propos étaient tellement ingrats, tellement sévères, c'est difficile à expliquer. Ben, c'est pas difficile à expliquer, mais c'est difficile à comprendre vers quoi ils s'en vont. Fait que c'est des gens qui tiennent des propos clair dans lequel ils souhaitent rencontrer des enfants dans le but de les agresser sexuellement, de commettre toutes sortes de supplices sexuels envers eux, finalement.
OK, puis ils se donnent des trucs comme approcher les enfants, je suppose, puis des trucs comme ça.
Exact, ils peuvent se donner des trucs, ils peuvent s'entendre entre eux, t'as-tu accès à quelqu'un, OK, moi je ferais ça, je ferais telle patente, ils s'entendent un petit peu, parce que les infractions ont été déposées cette semaine, on a tout ce qu'on connaît déjà en pornographie juvénile, soit d'avoir accédé, possédé, distribué, mais aussi produit de la pornographie juvénile. La production ne se limite pas à prendre une photo de quelqu'un et tout ça, ça peut être aussi la production écrite. Donc dans le présent ratissage, c'est beaucoup de production écrite qu'on a, parce que les propos étaient tellement dégradants que ça rentrait dans les cadres juridiques.
Quand vous dites là, de la production, là, est-ce que ça veut dire qu'il y en a qui écrivent des documents, comment approcher des enfants, comment séduire des enfants, comment prendre des photos, des images avec des enfants?
On n'a pas récupéré ça dans le projet, dans le présent ratissage. Par contre, je sais que ça a déjà existé des documents. C'était à l'époque un PDF dans lequel, oui, c'était comme un guide qui expliquait un peu comment se rendre là.
Puis les gens que vous avez arrêtés, est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Est-ce qu'ils se fréquentent? Est-ce qu'ils se parlent? Ou ils sont chacun dans leur bulle, là?
Ils sont chacun dans leur bulle, principalement. Ils utilisent des pseudonymes, évidemment, sur ces plateformes-là. On n'a pas trouvé de nom. Parfois, le pseudonyme est collé sur le nom, mais des fois, on avait des pseudonymes qui ne permettaient pas d'identifier la personne. Donc, non, elles ne se connaissent pas. Par contre, ils peuvent se rencontrer dans le futur et ça, j'ai pas l'information. Certaines d'entre elles, ces personnes-là, se sont rencontrées.
OK. Puis quand vous arrivez, puis vous cognez à la porte, puis en disant on s'en vient arrêter, là, vous prenez l'ordinateur, vous trouvez quoi? Des milliers de fichiers là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez?
Ben, comme ce ratissage-là était par rapport à du clavardage, on a trouvé beaucoup, beaucoup de sessions de clavardage qui vont être analysées dans le futur. T'sais, on a une adresse, exemple, 3300 sessions de clavardage qui ont été récupérées. Ces 3300-là seront analysées dans le futur par nos policiers puis nos analystes, évidemment, et pourraient mener à d'autres accusations. On a trouvé de la pornographie juvénile à des endroits, des fichiers, des vidéos. C'est ça.
Avez-vous des récidives? récidivistes là-dedans?
Oui. On a des récidivistes qui avaient déjà été accusés d'infractions sexuelles reliées à la pornographie juvénile, la possession ou l'accession de pornographie juvénile. On a des récidivistes en agression sexuelle, des récidivistes en agression sexuelle sur des adultes, mais aussi des récidivistes en agression sexuelle envers des enfants.
Là, la question que les auteurs vont sans doute se poser, là, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a, parmi ces images-là que vous trouvez, des cas d'enfants qui ont été abusés ici au Québec, donc des enfants qui ont été abusés par ce genre d'individus, mais de la production locale où ce sont des images qui viennent de l'étranger?
J'ai pas toutes les informations. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le présent ratissage, on a sorti une victime d'un milieu familial. Cette victime-là a été abusée par des gens de l'entourage. Donc ça, c'est une victime réelle qui a été identifiée.
Quand vous dites abusée, là, ça veut dire qu'on a abusé d'elle, puis qu'en plus, les images ont été... on a pris des images d'elle?
J'ai pas l'information qu'il y a des images dans celle-là. C'est des abus, des contacts sexuels, des incitations à des contacts sexuels, l'agression sexuelle, les chefs qui ont été déposés.
Mais est-ce que ça arrive que des enfants québécois soient victimes, agressés, photographiés, filmés, puis que c'est mis sur le web?
Oui, ça l'arrive. Ça l'arrive. On en a vu. J'ai des dossiers en tête où c'est arrivé. C'est arrivé il y a environ un an et demi dans le centre du Québec ou dans la Mauricie, excusez-moi, où que cette personne-là, justement, photographiait son enfant lors d'abus sexuels et publiait ça sur une autre plateforme de discussion, finalement.
Faut être fait fort pour faire la job que vous faites, puis vos policiers aussi, policières.
C'est ça, c'est nos policiers qui sont vraiment fait fort. Tu sais, moi, je suis pas mal moins confronté à ça qu'eux. Donc, oui, ils sont faits très fort, sont rigoureux, sont acharnés. C'est toute une équipe qu'on a, et je ne parle pas que de mon équipe. Là, je parle de toute cette équipe intégrée là, les 275 policiers qui ont participé à ça. Je peux vous garantir qu'on n'est pas obligé de tordre un bras à personne pour participer à une opération comme celle-là.
Merci d'être venu ce matin. Marc-Antoine Vachon, qui est le responsable de l'équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile à la Sûreté du Québec. Merci beaucoup.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On le sait tous, il y a une crise du logement à Montréal, au Québec et même ailleurs au Canada. On a maintenant des chiffres pour être capable d'avoir un portrait plus précis. Ce sont les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Et j'en parle avec l'économiste Francis Cortellino. Monsieur Cortellino, bonjour.
Bonjour.
D'abord, juste, puis pas avoir une avalanche de chiffres quand même, là, mais avoir les données les plus importantes. Est-ce que je comprends qu'actuellement, au Québec, c'est 1,7% de loyers qui sont disponibles?
Exactement. Donc, il y a très, très peu de logements locatifs qui sont vacants présentement au Québec. On est sous les 2% d'une occupation.
OK. Et ça, on n'a pas vu ça depuis quand?
Au Québec, il faut remonter à presque une vingtaine d'années pour avoir des taux d'une occupation aussi faibles. Donc, souvenez-vous, au début des années 2000, là, il y avait peu de logements disponibles. Donc, on revient plus tard à cette période-là.
OK. Le prix moyen d'un logement à Montréal, c'est de combien?
Mais c'est de 1 000 $, mais encore une fois, c'est une moyenne. Donc, par exemple, on a une nouvelle donnée qu'on a publiée hier où on dit que lorsque le locataire est resté dans son appartement, donc le loyer moyen, c'est d'environ 960 $ et fait face à une hausse d'à peu près 3,5% du loyer. Par contre, lorsque le locataire devait trouver un nouveau logement et emménager dans un nouveau logement, dans ce cas-là, le loyer moyen était dans 1 250 $, et dans le cas aussi où les loyers étaient libérés, on parle d'une augmentation d'à peu près 14,5% de l'appartement. Donc, on peut voir une grande différence dépendant de votre situation de locataire.
OK. Quand vous regardez la situation, donc, ça veut dire que c'est un peu un cercle vicieux. Peu de logements, ceux qui restent, les prix augmentent, et donc, il y a cette rareté qui fait que ça coûte plus cher, puis que cette tendance-là semble pas vouloir ralentir, là.
Mais en fait, ça, le taux baisse, c'est d'un bon côté, c'est que l'offre a beaucoup augmenté en termes d'appartements locatifs au Québec au cours des dernières années, et le Québec se distingue là, de plusieurs autres régions du pays. Par exemple, dans la région de Montréal, l'an passé, on a ajouté 12 000 nouveaux appartements locatifs. Et si on met une dizaine d'années en arrière, c'est seulement 1 800 par année. Donc, c'est beaucoup plus que par le passé. Par contre, l'offre ne répond pas à la demande sur le marché locatif qui est présentement trop forte.
Je vois des commentaires d'entrepreneurs qui disent que ça coûte 400, 450 000 faire un logement, qu'avec la hausse des taux d'intérêt, il y a beaucoup qui hésitent, le coût de la main-d'œuvre. Est-ce que vous percevez actuellement, quand vous regardez les données, là, un ralentissement dans l'offre ou dans les projets de construction?
Oui, donc la bonne nouvelle au moins, c'est qu'il y a eu beaucoup de mises en chantier dans les dernières années. Donc en date là, de la fin d'année de 2022, il y avait encore 22 000 appartements locatifs dans la région de Montréal qui étaient en construction. Donc ils n'étaient pas complétés, qu'elle arrivait sur le marché cette année ou l'an prochain. Par contre, si on regarde les nouveaux projets de cette année, qu'est-ce qui a été mis en chantier? Oui, c'est à la baisse à cause de plusieurs grands défis, comme vous le dites, les hausses de coûts de construction, la pénurie de main-d'œuvre, les hausses de coûts de financement. Donc, il faut plus d'offres sur le marché, mais le contexte actuel, disons, vient amplifier le défi d'augmenter cette offre là un peu partout au Québec.
Mais l'autre chose, les logements qui se construisent, est-ce que vous savez quel type de logement on construit justement? Est-ce qu'on a affaire à des 4,5? Est-ce qu'on a affaire à des condos, une chambre? On parle de quoi?
Donc, si on regarde seulement le logement locatif, on exclut le condo, okay. Je dirais la grande majorité des logements construits, c'est encore du 4,5. Mais aussi des plus petits appartements qui se construisent, par exemple du 3,5, du studio, parce que les ménages sont de moins en moins grands aussi. Et encore une fois, si on regarde les loyers moyens, par exemple, pour les appartements locatifs récemment construits dans la région de Montréal, on tombe à 1 600 $ pour un 4,5. Donc encore une fois, c'est moins accessible à plusieurs locataires, et ça explique aussi peut-être que le taux d'occupation dans les appartements récents, qui sont plus chers, est plus élevé que dans le reste du marché, parce qu'il y a moins de locataires qui peuvent se payer ce type d'appartement.
Juste bien être sûr d'avoir compris votre chiffre, là, un 4,5 à 1 600?
Dans les constructions des trois dernières années, un loyer moyen de 1 600 $ pour un 4,5 dans la grande région de Montréal, qui inclut la banlieue.
OK, et ça veut dire aussi qu'il y a une clause de 5 ans où le propriétaire peut augmenter comme il veut?
Oui, dans les 5 premières années, comme vous dites, la hausse de loyer n'est pas contrôlée par un processus comme celui de du tribunal du logement.
OK, et... Juste une dernière comparaison. On a souvent parlé de la crise du logement à Montréal, mais vous observez ailleurs au Québec aussi ce phénomène-là.
Oui, donc un peu partout, les taux d'occupation sont très faibles, même souvent sous les 1%. Vous savez, l'accession à la propriété est devenue plus difficile dans les dernières années avec les hausses de prix qu'on a connues. On a les hausses de taux hypothécaires qui font en sorte que les gens achètent moins, donc demeurent locataires plus longtemps. C'est vrai partout au Québec, mais aussi dans les plus petites régions, les régions de taille intermédiaire. Vous savez, il y a plusieurs personnes dans la pandémie qui ont quitté les grands centres pour aller vivre dans les plus petites régions, profiter du télétravail. Mais ces gens-là, leur arrivée dans les plus petites régions, ils vont acheter ou d'autres vont louer. Donc, c'est lui-même aussi de la pression sur les marchés locatifs des centres de plus petite taille. Et on a des taux d'occupation souvent dans ces régions-là qui sont sous les 1%, avec des hausses de loyers aussi qui sont plus fortes qu'avant. Et donc, on peut voir tous les marchés locatifs au Québec sont sous pression en ce moment.
Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Francis Cortellino, qui est économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier matin, on vous parlait de ce bilan de Recyc Québec concernant la gestion des matières résiduelles au Québec. Il y a eu toutes sortes de réactions durant la journée, notamment du gouvernement. Je vais en parler avec Sophie Langlois-Blouin, qui est la vice-présidente responsable de la performance des opérations chez Recyc Québec. Madame Langlois-Blouin, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Merci pour l'invitation.
C'est gentil. Écoutez, juste qu'on fasse un tableau quand même de la situation. En gros, les Québécois, là, si on a bien compris, génèrent plus de 700 kilos de déchets par année. Exact?
Exact. Donc ça, c'est l'ensemble des déchets qui sont envoyés dans les sites d'enfouissement, dans les incinérateurs, qui viennent de toutes les sources. Donc des ménages, mais aussi des entreprises et du secteur de la construction, rénovation, démolition.
OK. Est-ce que je comprends aussi que c'est en croissance, ça ralentit pas, là?
Effectivement, on est en hausse par rapport à notre dernier bilan qui a été réalisé en 2018. Par contre, si on va un petit peu plus précis dans les données, on voit qu'il y a des baisses, notamment au niveau des citoyens. Les gens participent au service de récupération, le bac bleu, le bac vert, la collecte des matières organiques. Ils participent aussi aux collectes ponctuelles ou vont dans les éco-centres. Donc, on voit une baisse au niveau des citoyens, mais on voit une hausse notamment assez marquée dans le secteur de la construction, rénovation, démolition. Donc, il y a plus de déchets qui viennent de ce secteur-là en 2021.
OK, c'est important ce que vous dites là. C'est que les gens, les individus, là, semblent générer un peu moins de déchets, recyclent plus. J'ai vu des augmentations au niveau du compostage et tout ça. Par contre, dans le commercial, c'est une autre réalité.
Exact. Donc, nous, on est capable d'avoir cette granularité-là. Puis vous parlez au niveau des citoyens dans le bilan 2021. Ce qu'on voit, c'est une progression aussi importante au niveau des matières organiques. Les services sont en déploiement dans les différentes régions du Québec. On a maintenant 66% des municipalités qui offrent une collecte ou une approche différente. Par exemple, pour les plus petites communautés ou les communautés isolées, c'est le compostage domestique ou communautaire peut être possible. Aussi, on a adapté l'approche selon les réalités du territoire. Donc ça donne des résultats. C'est vraiment au niveau des entreprises, mais plus particulièrement du secteur de la construction, là où il va falloir agir. Et c'est notamment pourquoi il y a un comité d'experts qui a été mis en place qui regroupait différents intervenants dans ce secteur-là. Et ce comité-là d'experts de l'industrie de la construction, rénovation, démolition a le mandat de déposer des recommandations au ministre pour changer la donne, si on veut, dans ce secteur-là.
OK. Juste bien comprendre aussi. Si on produit au-delà de 700 kilos de déchets par citoyen, est-ce que c'est réaliste de penser que d'ici la fin de l'année, ça va passer à 525?
C'est sûr qu'on s'éloigne de cet objectif-là. Notre prochain bilan de la gestion des matières résiduelles au Québec va porter sur l'année 2023. Donc, on va le réaliser en 2024. On va pouvoir commencer à voir l'effet de certaines mesures, mais l'objectif de 525, on s'en éloigne. C'est sûr, on devrait être sur une tendance à la baisse et c'est pas ça qu'on observe dans le bilan actuellement. Il y a quand même des chantiers, notamment la modernisation des systèmes de consigne, collecte sélective, qui vont avoir un impact. Le déploiement, comme je le disais encore, des services de collecte des matières organiques va avoir un impact. Puis surtout, il y a eu un changement qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Ça coûte plus cher d'envoyer des matières à l'élimination. Donc, la redevance à l'élimination, ce qui est chargé en plus quand on envoie une tonne de matières à l'élimination, c'est maintenant de 30 $ la tonne. Et ce montant-là va être indexé de 2 $ à chaque année. Donc, ça va progresser dans le temps. C'est vraiment un incitatif pour décourager l'élimination puis encourager toutes les approches en amont de réduction, de réemploi, de recyclage.
OK. Question de base là, de beaucoup d'auditeurs. Quand on parle du bac de recyclage, là, quel est le pourcentage des matières que les gens mettent dans les bacs qui sont vraiment et réellement recyclées?
Dans le bilan 2021, le portrait au niveau des centres de tri de la collecte sélective, c'est 76% des matières qu'ils reçoivent sont acheminées à des conditionneurs recycleurs. Donc, il y a une partie, le 24% restant, c'est soit des matières qui ont été rejetées parce que c'est des matières qui n'auraient pas dû se retrouver dans le bac de récupération ou qui n'ont pas pu être captées, par exemple, parce qu'elles étaient trop petites par les équipements de tri. Il y a aussi des matières entreposées là-dedans, donc qui sont pas nécessairement destinées à être à envoyer à l'élimination, mais qui sont en attente, par exemple, d'être vendues. Et ce qu'on voit aussi dans le bilan 2021, c'est qu'il y a une progression. On a plus de matières qui sortent des centres de tri qui restent au Québec pour être conditionnées et recyclées. Donc, cette donnée-là, on a un peu inversé la tendance qu'on voyait en 2015 où une grande proportion des matières étaient acheminées à l'extérieur du Québec. Là, on est à 61% des matières qui sortent des centres de tri qui restent au Québec.
Parce qu'avant, on avait, et puis ça a créé, on le sait, des frictions, là, parce qu'il y a des pays qui sont mis à refuser, mais on envoyait nos déchets ailleurs, là.
Les matières recyclables, effectivement, c'est un marché d'offres et de demandes. Il y avait beaucoup d'exportations. Là, on a travaillé, notamment Recyc Québec, les centres de tri ont modernisé leur équipement pour améliorer la qualité, réduire les taux de contamination, être plus en adéquation aussi avec les besoins des acheteurs locaux. Puis, il y a aussi eu différents projets d'entreprises au Québec qui ont accru leur capacité à traiter des matières. Donc, tout ça porte fruit, puis on espère que ça continue également dans les prochaines années.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Sophie Langlois-Blouin, qui est la vice-présidente responsable de la performance des opérations chez Recyc Québec.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
très loin là-bas,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.